Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Jessie Angers-Robert. Il est candidat aux européennes sur la liste Nous le Peuple. Une petite liste, comme l'on dit, mais on a envie aussi de mettre en lumière ces petites listes dans cette campagne européenne pour les élections européennes, précisément du 9 juin prochain. C'est une liste qui est conduite par Georges Kuzmanovitch. On va en dire un petit mot tout à l'heure. Bonjour Jessie Angers-Robert.
Bonjour Stéphane, merci beaucoup de votre invitation et bonjour à tous vos auditeurs.
Alors nous allons parler de politique, nous allons parler d'Europe. On a envie un peu de mieux connaître votre liste, liste conduite donc par Georges Kuzmanovitch, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est ancien conseiller international et défense de Jean-Luc Mélenchon. Alors est-ce à dire que c'est une liste de gauche ou très à gauche ou moins ancrée à gauche?
Alors effectivement, Georges Kuzmanovitch est l'ancien conseiller international de Jean-Luc Mélenchon, mais la liste... A vocation à rassembler le plus largement possible, puisque notre référence, c'est le Conseil national de la Résistance. Et vous savez qu'au sein de ce Conseil national de la Résistance, il y avait des gens très à gauche, très à droite, des monarchistes et des communistes. Vous connaissez la Rose et le Réséda de Louis Aragon, par exemple. Et voilà, notre leitmotiv, notre vocation, c'est de défendre avant tout la souveraineté nationale et populaire.
Alors c'est une liste, j'ai été regarder un petit peu sur votre site internet, qui réunit, j'allais dire, toutes les classes sociales. Hein, on y trouve des agriculteurs, on y trouve des employés, on y trouve des ouvriers. Finalement, c'est le peuple qui pourrait changer l'Europe.
Mais on pense en tout cas que le peuple peut changer les choses à la fois au niveau national et au niveau européen. Effectivement, sur notre liste, nous avons essayé de balayer large, à la fois territorialement pour représenter le plus possible la population française, professionnellement aussi, vous l'avez dit, puisque nous avons des artisans, des commerçants, des petits fonctionnaires, des professeurs, des enseignants, bien sûr, des agriculteurs aussi, on se rappelle de la crise agricole, et des étudiants comme moi, par exemple. Donc nous avons essayé de balayer le plus largement possible au sein de cette liste, et effectivement, le peuple doit reprendre sa souveraineté, puisque sans souveraineté, le peuple n'est pas décisionnaire. On l'a bien vu en 2005, par exemple, lors du référendum pour lequel nous allons fêter les 19 ans bientôt. À 55%, le non avait gagné, et ensuite, le président Sarkozy, en 2007, a trahi en quelque sorte ce référendum et a fait passer le traité de Lisbonne par la voie parlementaire.
Alors donc, nous le peuple se situe un petit peu au-dessus des partis. On a un peu dans l'oreille aussi l'idée gaullienne, puisque le général de Gaulle avait choisi lui aussi de se situer au-dessus des partis et de ne pas faire de politique. Il en faisait un peu quand même, il faut bien le dire. Est-ce qu'aujourd'hui l'idée des partis même est quelque chose, alors on pourrait dire déculé, ou en tout cas qui n'a plus lieu d'être lorsque l'on veut traiter des grands sujets, sujets européens ou plus largement mondiaux?
L'une de nos références, vous l'avez dit justement, c'est le général de Gaulle, effectivement, qui avait proposé le plan Fouché, qui a été refusé, après abandonné. Et en quelque sorte, les technocrates bruxellois ont choisi cette Union européenne, cette construction européenne que nous avons encore aujourd'hui à partir de 1957, avec le traité de Rome, c'est-à-dire une Union européenne technocratique, libérale ou ultra-libérale même, et anti-démocratique. Donc effectivement, nous souhaitons revenir à une Europe des nations et des peuples, une Europe où nous construisons des projets ensemble, une Europe peut-être aussi à plusieurs vitesses, où il y aurait un noyau dur de 6 pays comme à l'origine avec la communauté européenne, et ensuite élargir le plus possible à l'échelle du continent européen, voire même jusqu'à peut-être la Russie. De Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. C'est aussi l'un de nos projets. Et sur la question des partis politiques, effectivement, nous faisons également ce constat-là, que les partis sont peut-être éculés. Le général de Gaulle fustigeait les partis, n'était pas le seul. Donc c'est pour ça aussi que nous avons voulu ce rassemblement populaire. Il y a effectivement des partis et des gens qui sont militants au sein de ce rassemblement Nous le Peuple, mais nous avons souhaité gommer ça le plus possible pour rassembler La diversité du peuple français.
Voilà, le peuple dans sa grande diversité. Oui. Justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la Russie, avec cette guerre en Ukraine que Vladimir Poutine continue de conduire contre le peuple ukrainien. On parle beaucoup de l'Ukraine dans l'Europe, de l'entrée de l'Ukraine en Europe. On parle beaucoup aussi de la Moldavie, hein, qui fait un appel du pied à l'Europe alors qu'elle se sent menacée par la Russie. Est-ce qu'il faudra attendre un jour ou l'autre que la Russie change de régime pour pouvoir faire rentrer tous ces pays, ou est-ce qu'il faut les faire rentrer très vite pour éviter justement cette suprématie russe?
Nous pensons que non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Faire rentrer l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, effectivement, ce serait un élan d'humanité, on pourrait le croire, mais ce serait très, très dommageable pour la France. Si on fait rentrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne, on sait très bien que l'agriculture française en pâtirait, puisque l'Ukraine aurait dans son escarcelle les principaux financements de la politique agricole commune, par exemple.
On parle de 16 milliards d'euros. Hein.
Oui, de 13 à 16 milliards d'euros, 16 milliards. Par exemple. Voilà, effectivement, pour l'Ukraine, alors que la France en reçoit aujourd'hui 9 milliards et demi de la PAC en 2022, en tout cas. Et non, c'est pas une bonne idée de faire rentrer ces pays-là très vite et même à plus long terme. Le but, en tout cas de nous le peuple, le but assumé, c'est de détruire cette Union européenne pour construire quelque chose d'autre, pour construire une alternative crédible.
Il faut gommer l'Europe, il faut arrêter l'Union européenne, faut la déconstruire.
Oui, si on posait la question aujourd'hui aux Français, Emmanuel Macron l'a dit lui-même en 2018 lors d'une interview. Il a dit que si on posait la question aux Français de la même manière que pour le Brexit, les Français sortiraient sûrement de l'Union européenne, choisiraient sûrement de sortir de l'Union européenne par référendum. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut construire quelque chose d'autre, une alternative, une Europe des peuples et des nations basée sur une sorte de néo-plan Fouché, le plan gaullien, pour respecter les souverainetés nationales et populaires, et surtout qu'elle soit démocratique, cette Europe. Aujourd'hui, la seule élection démocratique, c'est celle du Parlement européen. On en parle aujourd'hui parce qu'on est candidat, forcément. Mais le Parlement européen n'est pas décisionnaire. Il ne peut pas changer les traités et il n'a même pas l'initiative des lois. Il a un pouvoir très restreint en matière budgétaire. C'est la Commission qui a l'essentiel du pouvoir, on le sait bien. Voilà.
Il faudrait donc, par exemple, élire, Madame von der Leyen a été nommée, il aurait fallu qu'elle soit élue au suffrage universel par les Européens.
Oui, ce serait l'idée, mais aujourd'hui c'est pas du tout ce que fait l'Union Européenne. Le but justement c'est de verrouiller le plus possible, on crée des superstructures très technocratiques, et cela depuis le début. Déjà, Pierre Mendès-France dénonçait ça au moment du traité de Rome. Donc vous voyez où on en est encore aujourd'hui. On en est toujours dans cette logique-là d'une Union européenne très libérale sur le plan économique, la mise en œuvre de la concurrence libre et non faussée, l'interdiction des aides d'État, une Union européenne technocratique dirigée par des fonctionnaires européens ultra payés, et Madame von der Leyen se prend pour une super ministre ou une présidente de l'Union européenne alors qu'elle ne l'est pas puisqu'elle n'est pas élue. On a vu Monsieur Macron, par exemple, la recevoir avec Monsieur Xi Jinping, le président chinois. À quel titre Madame von der Leyen n'est que la chef des fonctionnaires européens, très franchement. Et elle est antidémocratique, puisque le seul référendum, il y a eu un référendum en 2005 qui a été perdu par l'Union européenne et les européistes, et on en est encore aujourd'hui à vouloir construire cette Union européenne-là au forceps et l'imposer notamment au peuple français.
On va vers une explosion de l'Union européenne, selon vous, dans les années à venir. Elle ne pèse pas assez, cette Union européenne, elle n'est pas assez respectueuse des desiderata des peuples.
Oui, bah c'est Delors lui-même qui disait que l'Europe était un nain politique. Et elle le reste encore aujourd'hui. On prenait l'exemple tout à l'heure de Xi Jinping en Chine. Monsieur Macron est allé en Chine avec elle. C'était... Là, l'autre jour, il recevait Monsieur Xi Jinping en France, mais il est allé en Chine d'abord. Il est allé avec Madame von der Leyen à Canton. Et les Chinois ont fait la différence entre le président français et la présidente de la Commission européenne. Ils ont mis de côté la présidente de la Commission européenne. Ils l'ont fait même recevoir par le ministre du tourisme chinois. Donc vous voyez à quel point l'Union européenne est vue à l'extérieur. C'est juste un exemple, mais ça montre très concrètement que cette Union européenne-là n'est pas prise au sérieux.
Alors beaucoup de formations politiques qui sont candidates aux élections européennes du 9 juin parlent de fédéralisme européen, de fédéralisme des régions. J'imagine que c'est un terme qui vous hérisse un petit peu.
Le fédéralisme, ça peut être une belle idée, très franchement, mais c'est un faux fédéralisme. Aujourd'hui, on veut imposer le fédéralisme. Monsieur Draghi, par exemple, qui a été président de la BCE et qui a peut-être vocation à diriger la Commission européenne un jour, veut que l'Union européenne devienne un État, par exemple. Et donc, non, c'est une fausse fédération qu'il construirait, puisque aujourd'hui, on le voit bien, si il y a une fédération qui est construite au niveau européen, et la souveraineté des peuples ne serait pas respectée. Aujourd'hui, dans les traités européens, ils parlent du principe de subsidiarité, du principe de subsidiarité, par exemple, qui est inscrit dans les traités européens. Il n'est même pas respecté. C'est le principe de base de toute fédération. Déjà, Proudhon en parlait dans tous ses livres. Donc, on ne peut pas construire une fédération. Il faudrait déjà un peuple européen. Il y a une diversité de nations. Il s'agirait de le reconnaître. Et donc forcément de construire une Union européenne ou une construction européenne alternative qui serait basée sur la démocratie avant tout.
Alors, les nations dans l'Europe aujourd'hui, les 27 nations, elles n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord. C'est compliqué. Est-ce qu'une union des nations, hein, je vais le dire comme ça, une union des nations, ce serait plus facile à diriger, ou est-ce qu'on aurait encore ces différences entre les différents pays, ces différences de mentalité, de politique aussi?
Mais une union des nations serait forcément respectueuse de ces nations-là. À partir du moment où l'union serait construite sur une base démocratique, je ne vois pas pourquoi ce serait compliqué. À partir du moment où on construit avec les peuples et non pas contre les peuples, si on construit une véritable Europe sociale, quelque chose que les européistes promettent depuis 1979, c'est-à-dire depuis les premières élections européennes, c'est une vieille arlésienne tout ça. Mmh. Plus personne n'y croit à ça, puisque en fin de compte, on voit encore M. Glucksmann qui promet de réveiller l'Europe, qui promet l'Europe sociale. Mitterrand déjà la promettait en 1979, et ce n'est toujours pas devenu parce que ce n'est pas possible. Les traités européens le disent clairement, c'est un modèle libéral qui est promu, la concurrence libre et non faussée, on en parlait tout à l'heure. Voilà ce qu'est le modèle de l'Union européenne là. Donc si elle n'est pas détruite et s'il n'y a pas d'alternative, tout ça ne pourra pas devenir.
Alors, on a aujourd'hui une Europe qui est confrontée à la guerre, on le disait tout à l'heure, la guerre en Ukraine conduite par la Russie. Il y a aussi le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas qui s'importe peu ou prou en France et plus largement en Europe. Et puis on a les bouleversements géopolitiques. Vous faisiez référence à la Chine tout à l'heure, la Chine qui conquiert des marchés en Europe mais aussi un peu partout dans le monde. On pense aussi à l'Afrique. Il y a les bouleversements politiques qui peuvent arriver prochainement aux États-Unis avec le retour de Donald Trump. Que pèseraient les nations européennes si elles n'arrivent pas à vivre dans le sein d'une communauté? Que pèseraient-elles face à ces géants aujourd'hui?
Mais il y a un exemple très, très, très criant de ça, de nations qui ont pesé face aux géants russes, chinois, américains. Vous aviez le général de Gaulle, par exemple, qui ne dirigeait que la France, en quelque sorte. Il n'y avait pas toute cette construction européenne aussi poussée qu'à l'époque. Et pourtant, le général de Gaulle parlait au monde à l'époque. Quand il a fait son discours de Phnom Penh en septembre 1966, où il critique l'impérialisme américain face aux Viet Minh, il parlait au monde. Mm-hmm. Il parlait aux petites nations, il parlait à ce qu'on a appelé le tiers-monde plus tard. Et donc voilà le message qu'il faudrait retrouver, un message gaulien, un message jaurétien, un message universel. Mmh. Vous savez, le poète Eugène Guilvic, le poète breton, disait « plus on est enraciné, plus on est universel ».
Mais il faudrait retrouver un De Gaulle qui avait pour lui l'histoire, évidemment, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Qui pourrait incarner aujourd'hui cette figure? Quelle femme, quel homme pourrait incarner cette figure aujourd'hui pour avoir assez d'autorité, justement, pour représenter un pays tel que la France au sein du monde, finalement?
Effectivement, personne ne peut avoir la légitimité historique qu'avait le général de Gaulle à l'époque, ça c'est sûr. Mais l'important, c'est de retrouver l'esprit de l'époque. Mmh. Si on a l'esprit, je pense qu'on peut conduire à peu près la même chose, qu'on peut faire avoir le même dessein pour la France, c'est-à-dire une indépendance nationale. Voilà. construite évidemment avec des partenaires européens, mais dans le sens d'une Europe des projets, des peuples et des nations. Et le général de Gaulle tenait à ça, c'était même la base de toute sa doctrine en quelque sorte, c'était la démocratie. Vous savez qu'il a fait beaucoup de référendums, et depuis que le général de Gaulle n'est plus là, le nombre de référendums c'est considérablement réduit.
Avec l'Europe des projets, évidemment. Alors cette Europe des projets aujourd'hui, à l'aube de l'intelligence artificielle, des bouleversements que cela va impliquer, on voit une Europe qui est très en retard sur le spatial, sur beaucoup de choses. Est-ce que une Europe des nations, une Europe de collaboration entre les nations pourrait voir naître aujourd'hui des projets tels qu'on a eu, tels que Airbus, Ariane et tant d'autres, ou même à titre un peu plus français, le TGV?
Mais bien sûr, ce serait ça l'idée en fin de compte, d'avoir une Europe des projets. Ça a été possible à une certaine époque parce que c'était la volonté politique. Aujourd'hui, les traités européens l'interdisent, ça, puisque les aides d'État et les concentrations d'entreprises sont interdites. On voit bien, dès qu'il y a des entreprises européennes, françaises, allemandes, anglaises avant bien sûr, souhaitaient se rapprocher pour constituer une sorte de géant européen qui pourrait concurrencer les Chinois, les Américains par exemple, l'Union européenne, la concurrence, dit non. Il faut rester dans le giron de la concurrence libre et non faussée. Voilà pourquoi c'est impossible aujourd'hui dans le cadre des traités européens actuels.
Alors, il y a aussi les grands sujets, les grandes préoccupations de l'Europe. Aujourd'hui, on le voit alors peut-être un petit peu plus en France avec l'actualité de ces dernières heures. En Europe également, ce souci de la sécurité européenne et de la défense. Et là, ça nous ramène là encore au conflit ukraino, en tout cas entre la Russie et l'Ukraine. On parle d'une défense européenne. On a entendu le président de la République s'exprimer là-dessus. Il a rectifié un peu le tir, si vous me permettez le terme, en disant oui, voilà, il ne s'agit pas de confier la force de frappe française, l'arme nucléaire à tous les pays européens, il s'agit de la partager. Alors voilà, la ligne est peut-être un petit peu floue. Il faut que la France reste maître d'œuvre en la matière de défense nucléaire européenne.
Bien sûr, bien sûr. C'est la première armée européenne. Il faut que la France reste indépendante. La base de toute souveraineté, c'est à la fois la défense, les affaires étrangères et la monnaie, on le sait bien, les frontières aussi. Bon, non, la défense européenne, c'est une arlésienne. On en parlait déjà en 1954 avec la communauté européenne de défense. C'était d'ailleurs le dinanais René Pleven qui était à la base de ce projet. Et la France, 3 ans plus tard, refuse, alors que tous les partenaires européens avaient accepté d'avoir cette communauté européenne de défense. Aujourd'hui, on en est encore là. Il faut arrêter de promettre l'Europe de la défense. Ça n'existera pas. Voilà. La défense française est l'une des plus performantes au niveau européen. Je disais que c'était la première armée d'Europe. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des poussées, effectivement, pour qu'on partage notre arme nucléaire, qu'on partage notre siège de l'ONU. Non, c'est pas possible, ça. La souveraineté est avant tout nationale. Voilà.
Alors, cette souveraineté, elle passe par une collaboration entre les différents pays. Il faudrait former les différents pays à se défendre les uns les autres, en collaboration évidemment entre eux, entre les nations, face par exemple à une attaque telle que pourrait le faire la Russie vis-à-vis des pays européens ou de certains pays européens.
Oui, mais on en parle souvent de cette attaque, cette éventuelle attaque de la Russie. Effectivement, la Russie a attaqué l'Ukraine, ça bien sûr. Mais on voit bien, elle s'enlise aujourd'hui en Ukraine. Tous ceux qui nous disent que la Russie va aller jusqu'à la pointe Saint-Mathieu dans le Finistère et va envahir toute l'Europe, c'est faux, ça n'arrivera pas. Elle est déjà enlisée en Ukraine. On disait au début du conflit ukrainien, souvenez-vous Stéphane, que l'Ukraine allait être envahie en 3 ou 4 jours, en une semaine, que le président Zelensky allait être arrêté, que Kiev allait être pris très facilement. Est-ce que ça s'est arrivé? Non, pas du tout. Donc quand on dit que la Russie va envahir tous les pays d'Europe de l'Est, l'ancien glacis soviétique, ça va être très compliqué, très franchement. Après, est-ce qu'il faut se préparer à une attaque? Toujours, bien sûr, mais il ne faut pas provoquer, parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On provoque les Russes, on met des soldats, des missiles dans les pays baltes, des missiles de l'OTAN par exemple. Si on fait ça, forcément, la Russie se sent agressée, se sent attaquée. Si la Russie avait mis des missiles à Cuba, c'est arrivé en 62, les États-Unis, par la voix de John Kennedy, avaient dit « Non, vous retirez ça tout de suite, sinon c'est la guerre ». Voilà, aujourd'hui, on en est un petit peu là aussi. Il ne faut pas agresser Et l'intérêt de la France, c'est aussi de s'entendre avec ses voisins et d'avoir de négocier la paix avec la Russie. La Russie, entre la Russie et l'Ukraine, la paix est possible. Mmh. Elle a même été possible dès avril 2022. Et pourtant, c'est l'OTAN, par la voix de Boris Johnson, qui était l'ancien premier ministre britannique, qui a demandé à Zelensky d'abandonner les négociations. La paix était possible 2 mois après le début du conflit ukrainien. Le Washington Post ou le New York Times en ont parlé assez récemment, et Die Welt, le journal allemand, en a encore fait un article il y a 2 jours. Voilà, mm-hmm. Il faut le dire aussi, la paix est possible. Arrêtons de vouloir toujours la guerre, encore plus la guerre.
Il faut arriver à discuter avec Poutine. Il faut là aussi peut-être une meilleure diplomatie, alors européenne ou des nations qui composent cette Europe.
La diplomatie est avant tout nationale. Comme je le disais tout à l'heure, l'Union Européenne est aujourd'hui un nain politique. Ils ont un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Monsieur Borrell, mais qui fait des déclarations comme ça, qui n'est même pas écouté, personne ne le connaît. Bon, la France, ça parle au monde. Quand on dit « je suis français en Chine, aux États-Unis », il y a toujours une sorte de d'éclair qui s'allume dans les yeux de ceux qu'on rencontre à l'étranger.
Là encore, le poids de l'histoire, le poids du respect de la France.
Mais bien sûr, parce que la France est avant tout le phare de la liberté dans le monde. On se souvient de Gaulle, par exemple, bien entendu, des gens comme ça ont marqué le monde. Comme je disais, il parlait, lui, au monde, et pourtant, c'était un enraciné. Il n'y avait pas plus français que le général de Gaulle, mais il parlait à l'universel, car il était enraciné et il était français.
Alors, on a aujourd'hui des problèmes à gérer dans différents pays. On parlait tout à l'heure de sécurité. Il y a aussi l'immigration qui est un véritable problème. On a les migrants qui arrivent depuis la Méditerranée, qui tentent aussi de traverser la Manche pour gagner la Grande-Bretagne, avec les drames que l'on sait. On a déjà les premières vagues de migrants climatiques qui arrivent. Aujourd'hui, c'est un des défis pour l'Europe, pour les pays qui composent l'Europe. Est-ce que là aussi, il faudra avoir une politique migratoire à l'échelle de la collaboration européenne dans l'image que vous avez de l'Europe, ou est-ce qu'il faudra que chaque pays décide lui-même de qui il accueille ou de qui il n'accueille pas ?
Alors, il peut y avoir une cohésion au niveau européen sur, évidemment, les points d'arrivée. On voit Lampedusa en Italie ou en Espagne. Il faut évidemment une cohésion européenne, avoir une sorte peut-être de clé de répartition, quelque chose comme ça. Mais savoir quand il faut régulariser, donner des papiers... donner des aides sociales, ça doit rester au niveau national, à mon sens. Voilà, mais il peut y avoir une coopération européenne, encore une fois, décidée par les nations elles-mêmes, et pas décidée par une autre autorité ou un machin quelconque au niveau européen qui impose ça aux nations et aux peuples. On sait que l'immigration, c'est un sujet assez inflammable. Mmh. C'est dommage, d'ailleurs, on pourra en parler de manière apaisée, à mon avis. Mais bon, on en est là. Il faut aussi savoir parler de manière apaisée de ces sujets-là, de l'immigration, et c'est possible au niveau européen comme au niveau national.
Alors, on parlait de sécurité, on a eu cette attaque d'un fourgon pénitentiaire hier, deux morts, deux fonctionnaires de la pénitentiaire qui ont trouvé la mort sur cette attaque. Ça ramène aussi au trafic de drogue et aux méthodes utilisées aujourd'hui par, on peut le dire, des truands, n'ayons pas peur des mots, qui organisent ce trafic de drogue. Une attaque qui n'était pas pensable en France il y a encore quelques années. On voit que le trafic de drogue gangrène la France, hélas, et beaucoup d'autres pays européens. Est-ce que là aussi, dans l'Europe que vous imaginez, il faudrait une collaboration policière, une collaboration frontière ?
Mais il faut une collaboration, bien entendu, entre pays européens, en tout cas entre les pays frontaliers de la France. Mais les frontières protègent, il faut aussi le répéter et le marteler, ça. Quand les terroristes du 13 novembre, par exemple, 2015, sont passés de la France à la Belgique ou de la Belgique à la France très facilement... Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de douaniers, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de frontières.
C'est l'espace Schengen ouvert.
C'est l'espace Schengen. Donc forcément, il faut une Europe des frontières, sinon ça va être compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, le trafic de drogue, ça passe par les Pays-Bas, ça revient en France, ça passe par la Belgique. S'il n'y a pas de frontières, et on favorise ces gens-là, on facilite leur travail. Donc on voit bien aujourd'hui, il y a plusieurs effectivement faits divers, notamment ce qui s'est passé hier. On voit bien qu'il y a une nécessité de, d'avoir de nouvelles frontières.
Reconstituer une forme d'Interpol comme on a aujourd'hui, qui est à l'échelle européenne, mais entre les pays pour justement combattre ce trafic de stupéfiants, combattre le terrorisme aussi, qui est là aussi très, très prégnant dans les pays européens.
Mais évidemment, c'est le terrorisme est mondialisé, donc on va pas dire qu'il faut avoir son petit fichier national et ne pas le partager avec les autres. Ce serait vraiment aberrant et ubuesque. Il faut partager ces infos-là au niveau européen, on en a besoin. Mais, encore une fois, c'est ces projets-là qui devraient marcher au niveau européen, et on se concentre pas là-dessus, on se concentre pas sur Interpol, on se concentre pas sur Frontex, on parlait d'immigration tout à l'heure, tout ça ne marche pas, mais c'est organisé. Et on se concentre avant toute chose sur l'économie, sur les finances. Alors est-ce que vous respectez bien les 3% de déficit, les 60% de dette, sinon vous allez avoir une procédure, attention, vous avez fait une loi... sur la justice, on va vous mettre une procédure, on va vous réduire les financements. Voilà sur quoi ils se concentraient, pas du tout sur la coopération, la collaboration policière et frontalière, par exemple.
Alors, sur l'économie, une Europe économique forte, là aussi avec des nations fortes, est-ce qu'il faut rester dans la monnaie unique ou est-ce qu'il faut reprendre chacun sa monnaie ?
Une monnaie commune pourrait être une bonne idée, par exemple. Mais encore une fois, les Français n'ont jamais été consultés, très, très franchement, sur l'euro. Il n'y a jamais eu de référendum pour ou contre l'adhésion à l'euro.
Ce serait dur de sortir de l'euro aujourd'hui.
Ce serait pas forcément très dur. Non, il faut de la volonté politique avant tout. Mais l'euro nous grève aussi au niveau économique. L'euro, on le sait bien, a été construit sur la base du Deutschmark à l'origine. Et donc, tout ça en découle. Il y a une banque centrale européenne qui est indépendante sur le modèle de la Bundesbank allemande. Tout ça nous grève. Il y a les objectifs de la BCE, c'est la lutte contre l'inflation. Alors qu'aux États-Unis, c'est la lutte, c'est le pouvoir d'achat et la croissance. Et eux sont indépendants. La Banque d'Angleterre est indépendante aussi. Ils peuvent faire marcher la planche à billets. Ce que la BCE rechigne à faire, c'est même interdit par les traités européens, mais ils arrivent toujours à trouver des mécanismes en cas de crise.
Alors, il nous reste trois petites minutes, là encore sur l'économie. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une concurrence entre les pays européens, ceux qui sont un peu plus développés, on pense évidemment à l'Allemagne et à la France, et d'autres pays qui faisaient partie du bloc de l'Est s'ils entrent dans cette nouvelle Europe que vous appelez de vos voeux, ne risquent pas de se retrouver un petit peu mis en minorité parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes moyens?
Mais c'est pour ça qu'il faudrait une Europe à plusieurs vitesses, une Europe plus intégrée pour les pays qui sont homogènes économiquement, en gros les pays historiques, les 6 de la CE par exemple, mais pour le reste ce serait moins intégré, il y aurait des étapes à passer bien entendu, mais encore une fois il faut un respect des peuples et de la démocratie, sinon on n'en sortira pas. Voilà, l'économie et la concurrence, c'est aujourd'hui les deux leitmotifs de cette Union européenne-là. Ils organisent la concurrence. Il y a eu l'acte unique, par exemple, en 1986, qui a libéralisé le marché des capitaux. Et aujourd'hui, les impôts, les grandes entreprises vont dans les pays où les impôts sont les plus bas. Il y a une concurrence au moins 10 ans fiscale. Voilà cette Union européenne-là. Et nous voulons le contraire. Voilà, une Union européenne des peuples et des nations, mais qui ne se concurrence pas entre eux. Effectivement, une Union européenne, par exemple, qui serait un peu plus homogène au niveau des taux d'imposition sur les sociétés, par exemple.
Voilà, une harmonie fiscale, en quelque sorte.
Bien entendu.
Avec aussi une Union européenne plus plurielle. Finalement, là aussi, il y a le côté culturel, et je voulais qu'on termine là-dessus. Voilà, on entend beaucoup de régions aujourd'hui, la Bretagne en fait partie, qui réclament une plus grande autonomie au sein des nations, au sein de la France, en l'occurrence, et au sein de l'Europe. Ça nous ramène un peu au débat Europe des nations, Europe fédérale. Il faut plus d'autonomie pour les régions, et on terminera là-dessus.
Mais le problème, c'est que cette Union européenne-là, justement, favorise les régions contre les nations. On voit bien, ils favorisent la Catalogne contre l'Espagne, ils favorisent la Corse, la Bretagne, tous les mouvements autonomistes ou voire même indépendantistes contre les nations pour concurrencer, détruire les nations. Donc non, nous sommes contre ça. Nous sommes avant tout pour une construction nationale. La Bretagne est française depuis 1532. Donc on est français avant tout. Et l'Union européenne, comme je le disais tout à l'heure, c'est la concurrence des nations. Nous souhaitons une coopération des nations et des peuples.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, Jesse Angers-Robert, candidat aux européennes sur la liste Nous le Peuple, liste conduite par Georges Kusmanovic. J'espère ne pas avoir écorché son nom. Petite liste, comme l'on dit, mais on avait envie de vous entendre ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci Stéphane, très bonne journée à vous aussi. Au revoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.